Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Le PSG qui a fait un match nul 4-4 contre la Juve hier. Déjà, les arrêts de jeu nous ont fait mal en milieu d'après-midi. Je préfère vous prévenir, puisque pour ceux qui n'ont pas suivi, les Parisiens menaient 4-1. Mais je vais revenir ensuite sur tout ça avec donc Lucas qui est là. Bonjour Lucas, tu m'entends, c'est bon ?
Salut à tous.
Alors, si Lucas est en double, c'est de ma faute. Ça fait une demi-heure qu'on est en train de résoudre des problèmes techniques. Mais bref, on va attaquer tout de suite. Donc, match nul 4 partout à l'occasion de la dernière journée de la phase de poule de la Youth League. Pardon, c'est un peu compliqué des fois. On va vous redonner les buteurs, tout ça, tout ça. On a donc ouverture du score d'Ilyes Ousni, d'Ismaël Garbi pardon, à la 6e minute sur une action où il conclut bien, il suit bien. 2-0 Ousni, exploit individuel, là vraiment on peut le dire. À la 19e où il part du milieu de terrain, il remonte tout, il efface un tacle, il efface un autre défenseur, il frappe petit filet opposé. Wunderbar, je dirais même, comme but. Ensuite, réduction du score de Yildiz, l'attaquant turinois, à la 50e minute. Donc, c'était juste au retour des vestiaires. C'était, je me souviens plus, passe en profondeur dans le dos de la défense et il frappe, Mouquet touche, mais pas assez pour que ça aille pas au fond. Ousni, 53e, 57e, 3e but parisien. Superbe action. Carrick qui remonte tout le terrain, qui donne à Garbi. Garbi fixe bien et décale le petit latéral gauche Muntu Amungu. Centre au second poteau, Ousni est là pour marquer. Et enfin, Garbi, entre-temps, on a un expulsé, à savoir Fernandez Véliz, à la 75e pour un deuxième carton jaune, ce qui coupe un contre. Malgré tout, Garbi met le but du 4-1 sur une passe décisive d'Ethan Mbappé qui remonte en demi-terrain avant de le décaler dans la surface. On se dit, bah c'est bon, c'est réglé. Kenny, 4-2, 90e minute, une nouvelle fois, ils le disent. Qui marque, attendez, je me souviens plus comment il marque. Ouais, un contre. Bah oui, Garbi, il y a une balle de 5-1, il la gâche. Contre, ils disent, finit l'action 4-2 sur un ballon qui est un peu repoussé, pas très mal géré. 4-3 à la 94e, coup franc second poteau de Huissen. Second poteau, bah, il est plus grand que tous les autres et donc il met un coup de tête. Et enfin, 95e, le but du 4-4, engagement, on perd le ballon, grand ballon devant et Angele, un petit qui était rentré en jeu, qui envoie une grosse reprise de volée sous la barre de Mouquet. Donc au final, 4 partout. Donc le PSG a assuré l'essentiel puisqu'il garde la première place de la poule. C'était quand même le but. On a 13 points à l'issue de la phase de poule. Premier, donc on évite le tour de barrage contre la Voix des Champions. La Juve, 11 points, deuxième, qui s'en sort donc avec ce pas si mal avec ce 4-4. Lucas, un avis général sur le match. En fait, pour ceux qui n'ont pas suivi la Youth League, et je comprends parce que c'est à des horaires de bureau, tout ça, pour vous donner une idée, c'était à peu près aussi frustrant que le match des pros quelques heures plus tard. Voilà, à peu près. L'idée, c'est ça. Lucas, ouais. Je te laisse donner ton avis sur le match en général.
Bah, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi pour dire qu'on semblait tenir un peu le match référence de la campagne jusque le temps additionnel, en fait, parce que PSG a maîtrisé sa rencontre de bout en bout. Et on était sur une très belle prestation jusqu'aux dernières minutes du match où on perd pied et on finit par un match nul qui laisse un petit goût d'amertume, même si la mission est assurée de terminer premier. Mais je pense que ce match avant les quelques dernières secondes de la partie est un très bon match et le meilleur de l'équipe de Zoumana Camara sur la campagne, je pense.
C'est vrai que sur la durée, il est vraiment bon sur les 85-90 minutes. Alors, il y a des petites erreurs, forcément, mais ça reste la Youth League. Attention, c'est pas du championnat, c'est comme la Ligue des Champions. Il n'y a pas de honte à avoir des hauts et des bas, mais c'est peut-être le plus complet, dans le sens où il y a vraiment de l'animation. L'animation offensive est bonne, l'animation défensive est bonne. Comme dit sur la live, je nous ai trouvé au-dessus comme au match aller. Le match aller, en fait, c'est surtout qu'il y a une demi-heure ou 45 minutes du... de folie, quoi, où on les explose. Mais je suis pas sûr qu'il y ait autant de bonnes choses à retenir du match aller, parce que de mémoire, on fait une deuxième mi-temps assez quelconque au Camp des Loges. En tout cas, c'est le souvenir que j'en avais. Là, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses, comme tu l'as dit. Et puis arrive ensuite cette décompression des dernières minutes, qui malheureusement fait très, très mal, parce que tu te retrouves, en fait, tu les vois, les petits, quand ils retournent au vestiaire, ils sont dégoûtés, quoi. Et c'est normal, parce que t'as pas le droit, entre guillemets, de perdre un match. Enfin, tu vois, je dis perdre, alors qu'on l'a pas perdu, on a fait 4-4, mais de laisser passer une victoire enfin, comme ça
qui paraissait acquis en fait.
Ah, et puis surtout c'est une victoire marquante, hein. Tu mets pas souvent 4-1 à l'extérieur en étant à 10. On dit sur live l'expulsion nous a fait mal. En fait, pendant un moment l'expulsion on la sent même pas passer, c'est ça qui est fou. Alors que on la sent sur les dernières secondes, parce que là on voit qu'il nous manque un défenseur central, parce que Zoumana Camara a pas fait rentrer de défenseur central, moi il me semble pas. Hein. On continue au lieu de jouer en 3-4-3, on joue 4-2-3 au final.
Oui, c'est ça. Parce que les deux changements qui sont faits après, c'est Romaric Etondé qui rentre à la place de Mukelenge et Ousni qui laisse sa place à Étienne Michu, donc un milieu de plus.
Ouais, c'est ça. On finit en 4-3-2, pardon, pas 4-2-3. Mais bon, un peu frustrant, effectivement. Mais beaucoup de... En fait, je trouve que c'est quelque part, c'est bien. Ça leur apprend aussi. Ils ont quand même concédé beaucoup de buts en fin de rencontre sur la campagne de Youth League. C'est quelque chose où ils doivent progresser. Et là, comme ça, ils le voient de façon assez claire. Parce que tu peux pas te permettre de lâcher, de prendre 3 buts. Là, si on est en... Comment ça s'appelle ? Si on est sur un match un peu classique, il y a prolongation. Je suis pas sûr qu'en prolongation, on s'en sorte, hein, vu à quel point on a été secoué sur les dernières minutes. Après, il y a quand même pour moi un point qui est à souligner sur cette fin de match, on peut le dire raté, c'est à quel point on a un déficit athlétique en fait. Parce que quand la Juve se met à mettre des grands ballons devant, le corner par exemple, le coup franc excentré, du 4-3, où Hussein nous met une tête, on voit direct qu'on manque vraiment, vraiment de taille au milieu du terrain, en défense et en attaque. Globalement, en joueurs qui sont grands, on a Fernandez Vélez, il s'est fait expulser. Bon, Mouquet, le gardien, mais bon, ce n'est qu'un gardien, il ne va pas sortir sur chaque coup de pied arrêté. Elanage, qui est grand, mais qui n'est pas forcément très dur dans les duels. Un peu Ousni devant, qui est capable de prendre des ballons de la tête, mais c'est tout, quoi.
On avait Bagbema, qui était un peu la perche de l'équipe, mais on perd sur blessure, et du coup, c'est Ethan Mbappé qui est bien parti pour jouer la deuxième partie de saison.
Ah oui, Ethan va jouer toute la deuxième partie de saison, mais tu vois, par exemple, Bichabu nous manque énormément dans les airs, parce que lui, des ballons dans les... Enfin, y a rien qui passe, vu sa morphologie. Donc, c'est vrai que c'est...
Sachant que tu peux aussi contextualiser pour ceux qui n'ont pas suivi le match, Wichsen, c'est un peu le même gabarit que Bichabu, hein. 1m96, c'est un colosse néerlandais assez impressionnant. Enfin, gros, gros gabarit du côté de la Juve et... C'est bon pas joueur, le premier qui met, c'est le troisième en Youth League. À chaque fois, des ballons de la tête. Un tireur de pénalty aussi, il avait marqué à l'aller.
Globalement,
Côté de la Juve, on parle d'un joueur aussi qui pourrait monter en A prochainement parce que les prestations sont plutôt appréciées.
Ouais, voilà. C'est vraiment un très bon joueur. Moi, il me rappelle, toute proportion gardée, il a un petit côté De Ligt version 2000, né en 2000, combien 2003, 2004, lui, il est né, Hussein, 2004, je pense.
2004, ouais.
Il a vraiment quelque chose qui s'en rapproche, quoi. Donc, c'est un joueur assez impressionnant, quand même, on va pas faire semblant.
2005 même.
2005 même. Alors, pour le... mm-hmm. C'est bien, je sais pas ce qui... Le Gouda était bon, hein. Parce que là, quelle tige. Mais donc voilà, un peu frustrant ce match nul, mais je trouve qu'il y a quand même des points qui sont pas forcément dus au hasard, parce que, comme je te dis, les coups de pied arrêtés, oui, forcément, quand tu rends 20 cm à toute l'équipe adverse, c'est un peu le problème qu'a l'équipe pro, d'ailleurs, parce que on l'a vu sur les derniers matchs, une équipe comme Haïfa nous a gênés, Troyes nous a par moments gênés dans les airs aussi. On dit sur live, ouais, la Juve va être grand gabarit. Ouais, la Juve est équipe très 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 grande en taille. Hein. Faut pas faire semblant. Vraiment, ils ont des gabarits et pourtant ils ont fait rentrer des jeunes joueurs, mais pareil, il y avait toujours pas mal de taille. Sur le jeu, peut-être dire quand même à quel point le PSG a fait un bon match quand même. Dans le jeu, vraiment, il n'y a pas eu photo, quoi.
Ouais, on a retrouvé en fait nos patrons sur chaque ligne, à savoir une défense qui s'est surtout retrouvée complètement, je trouve, puisque les trois ont fait un bon match. Au milieu, on a retrouvé Ayman Kari qui a fait une prestation de gala un peu.
Ah oui.
Vrai match de patron au milieu, le Ayman Kari de l'année dernière, totalement retrouvé sur ce match. Partout omniprésent à la perte du ballon, dans les projections. Enfin, il a fait la misère au milieu de la Juve qui a eu beaucoup de mal à exister face à lui. Et en attaque, le duo Garbi-Husni qui a continué à briller puisque 14 des 20 buts dans la Youth League sont marqués par le binôme. Donc
c'est
voilà.
Monstrueux.
Ouais.
C'est-à-dire que enfin, pour que les gens se réalisent bien, ils ont mis 14 buts à 2 en 6 matchs. C'est-à-dire qu'ils tournent à plus de 2 buts par match de moyenne dans un groupe très dur. Il faut le rappeler, c'est un groupe très très dur que le PSG a eu, parce que bah, Benfica, même s'ils ont beaucoup de joueurs qui sont partis en pro, ils ont quand même encore des gros talents, et on les a vus au camp des loges, hein, puisqu'ils nous ont un peu désossés. Et la Juve, bah, une équipe qui est capable de marquer quand même 7 buts en 2 matchs face au PSG, c'est une équipe qui a des talents quand même. Donc hier au milieu, Ayman Thierry a fait une exhibition quand même, ce qui n'est pas forcément une bonne chose face à un club italien, parce qu'on connaît leur méthode et leur capacité à proposer des belles choses, mais bon, ça c'est autre chose. Ouais, au milieu, enfin le milieu a régné globalement. Et je sais pas ce que t'en as pensé, mais je trouve que on a vraiment vu en fait un peu un bloc dans le sens où t'avais pas l'impression d'avoir les défenseurs d'un côté, le milieu un peu qui entre les deux et l'attaque devant quoi. Je trouve qu'il peut, c'est un peu un truc un peu récurrent sur les premiers matchs de Youth League. Tu avais parfois du mal à sentir
c'est
une
vrai
équipe.
C'est vrai que la structure était un peu moins décousue, notamment le lien défense défense-milieu, que j'ai trouvé beaucoup plus existant, puisque le milieu avait tendance à disparaître aussi sur les dernières rencontres. Et cette fois-ci, on a eu une paire, et surtout Carrie en chef d'orchestre, mais qui a tenu sur 90 minutes avant le temps additionnel. Donc je pense que le milieu a fait vraiment du bien tout au long de la rencontre. Cette fois-ci, n'a pas eu de trou d'air.
Ouais, non, c'est ça. Après, il y en a eu un petit peu en fin de rencontre, parce que je pense qu'ils sont... on voit que c'est une équipe assez jeune, pas très jeune, mais assez jeune. Et tu voyais qu'en fin de match, il y a eu quand même... La Juve a fait beaucoup plus de changements que nous, parce que nous, on a beaucoup de blessés. Et le sang frais apporté côté turinois, plus le fait qu'on finisse à 10, on a manqué énormément de lucidité en fin de rencontre. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouvais qu'à la fin, on faisait vraiment équipe fatiguée.
Ouais. Dans ce sens, je trouve aussi que la profondeur de banc va peut-être être un défaut au PSG, parce que il y a vraiment très très peu d'alternatives sur le banc, et tu sens que Zoumana Camara essaye de tenir le plus possible avec le 11. Avant de faire des changements, parce que bah, y a très peu de joueurs impactants qui peuvent faire entrer. Le Romaric Etonde, qui est rentré à la place de Mukelenge en fin de rencontre, est un bon joueur, puisque c'était un des joueurs les plus performants en U17 l'année dernière avec Ilyes Husniz. C'était un sacré duo qui avait marqué plus d'une quarantaine de buts en championnat à E2. Mais aujourd'hui, il revient d'une longue blessure, il n'est pas du tout apte physiquement pour le moment. Donc il y a très peu de solutions, et il y a des blessés, Noah Lemina qui est blessé, Bagbema pour très longtemps, et saison terminée puisque c'est les ligaments croisés.
Ouais.
Enfin voilà, ça va être compliqué pour la suite de la compétition dans ce sens-là.
Ouais, non, c'est sûr, c'est totalement ça. C'est... Là hier, on fait rentrer Étienne Michu, qui est donc un 2006 ou 2007 même, je ne sais plus, non 2006.
Un 2006, ouais.
Ethan, c'est un 2006, Mbappé, comment il s'appelle, Etonde doit être un 2005 ou 2006.
Un 2005, et Tayor Hamzaghi aussi qui est un 2006, donc on a une équipe quand même très jeune pour la compétition.
Ah oui, non, c'est sûr. Je pense qu'en face, ils ont fait rentrer des joueurs, peut-être du même âge, mais qui semblent un peu plus mûrs physiquement. Il y en a, le PSG fait vraiment pas du développement physique un critère important. Et ça se voit, ça se sent un peu sur ce genre de rencontre où tu te fais un peu bousculer et t'as pas forcément un grand costaud qui va te gagner des duels à l'épaule. Le seul, quelque part, qui est dans ce modèle-là, qui est entre guillemets, qui domine physiquement ses adversaires, c'est Carré au milieu, quoi. parce que lui, il gagne des duels vraiment à l'épaule. Ce qu'il fait sur le troisième but, il remonte un demi-terrain et au départ, il casse une ligne à l'épaule. Et combien de fois il a pris le ballon, il a cassé une ligne, il a percé ou il a résisté à un pressing, ce genre de choses, quoi. Donc, c'est pas forcément hasard qu'on souffre quand des équipes, pardon, commencent à mettre beaucoup d'intensité, à solliciter des duels, notamment via des ballons aériens, sur des seconds ballons qui traînent, sur du pressing en début de rencontre. On a vu que la Juve tentait de presser. Bon, alors ils n'ont pas tenté bien longtemps parce qu'ils se faisaient balader. Mais en tout cas, on sent qu'on est une équipe qui risque d'être en difficulté face à un adversaire très physique. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est un peu ce qui s'était passé l'an dernier face à Salzbourg. On avait explosé, notamment physiquement, parce qu'ils nous avaient roulé dessus à ce niveau-là. Et effectivement, comme dit sur la live, si on va loin et qu'il y a des recrutements en janvier, peut-être que El Shaddai et Warren Zairemri redescendront. Ça changerait beaucoup de choses. Dans la maturité physique notamment, ça changerait énormément de choses. Parce que bah, tu ne peux pas demander à Ethan Mbappé qui a 15 ans, qui joue contre des mecs qui en ont 18, 19, tout ça, de s'imposer physiquement. C'est pas possible. Et c'est pas un joueur fini morphologiquement, ça se voit même dans sa façon de courir. Et donc c'est vite compliqué contre des équipes qui n'hésitent pas à un peu cartonner nos joueurs, quoi. Et ça fait partie du jeu aussi, hein.
Ouais, tu parlais de Salzbourg, je sais pas si tu te souviens de leur attaquant ou Mardi Akite, qui ouais. ressemblait beaucoup dans le profil à un Semedo qu'on a affronté avec le Benfica, qui sont des attaquants, mais très très véloces et super robustes physiquement, enfin des profils de plus d'1m90 et qui bougent tous les défenseurs. Et ça se ressent en fait, dès qu'on affronte ce genre de profil, on est mis en difficulté, parce qu'on a des joueurs qui sont pas non plus des bêtes dans les airs. Et on est mis en difficulté sur les centres, mais tout ce qui est ballon aérien dans la surface, ça devient difficile pour nous. Et là encore, hier, c'est même pas un attaquant, mais quoi que ils disent est quand même pas mal physiquement.
Oui, il est bien stock, hein, quand même.
On affronte des joueurs voilà, qui sont super... Enfin, qui sont une taille au-dessus, globalement. Je pense si on fait la moyenne... Enfin, on ressent cette différence en fait, parce que globalement on a affronté le Maccabi Haïfa, Benfica et la Juve, et toutes ont présenté en fait des équipes beaucoup plus robustes physiquement que nous.
Ouais, non, on me dit ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils arrivent à montrer des bonnes choses en étant bien en dessous physiquement, totalement, et c'est exactement l'idée de développement du PSG, c'est que plutôt que de prendre des colosses à 15 ans qui vont dominer les U15 parce que justement ils font une tête de plus que tout le monde, c'est de prendre des joueurs peut-être beaucoup moins aboutis physiquement et morphologiquement et de les faire travailler techniquement, le sens du jeu, le déplacement, parce que naturellement ils vont grandir et s'étoffer. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a un petit Christopher Nkunku qui n'est quand même pas un mauvais joueur en Youth League. C'était à chaque fois, enfin moi je l'ai vu même en U17. C'était une crevette de chez crevette. Aujourd'hui, on voit que c'est un superbe athlète qui a une vitesse, une explosivité quand même assez impressionnante. Et c'est justement le pari qui a été fait. C'est que ça ne sert à rien de prendre un costaud à 14 ans qui, justement, ne va pas forcément développer d'autres qualités. Il ne faut pas croire, la plupart des clubs recrutent comme ça. Alors, de temps en temps, ils vont faire un pari sur un gros gabarit parce que... On peut aussi développer techniquement un joueur qui, au départ, est déjà une force de la nature parce qu'il va avoir des qualités exceptionnelles et donc on peut capitaliser dessus. Mais il y a beaucoup de joueurs parisiens qui vont exploser physiquement, se développer un peu plus sur le tard, alors que techniquement, ils sont déjà à un très bon niveau tout jeune, quoi. Donc c'est aussi un peu ça ce qu'on a vu hier. Et encore, la Juve n'est pas l'équipe la plus physique, mais c'est une équipe parisienne très technique, très basée sur la passe, les sorties de balles, les déplacements, les redoublements de passes, etc. etc. quoi. On me dit CF Bichabu, mais Bichabu, faut pas croire, il a de sacrés pieds. Hein. El Shaddai, ouais. C'est un Golgoth, certes, parce qu'il fait, il est immense. Mais il a des pieds, s'il faisait 20 cm de moins, tout le monde parlerait ses pieds et personne de son physique. Hein. Donc c'est pas rien normalement. Oui, Lucas, vas-y.
Non, je voulais dire, avec l'Olivier que tu as en Ile-de-France, si le PSG voulait aligner un 11 avec une moyenne de taille à 1m90, on pourrait le faire tranquillement. Mais la formation du PSG a misé sur autre chose. Enfin voilà, on n'est pas juste une équipe de colosses
ouais.
physique.
Non, c'est sûr, c'est sûr. Tu veux rajouter quelque chose sur le déroulement du match sur un
Moi,
peu
je
le...
pense qu'on peut faire,
Ouais.
un par un, ligne par ligne.
Allez, on va faire un petit tour. En plus, la Juve nous a gentiment fourni des photos du match. Merci, la Juve. Bon, ils n'ont pas trouvé cette choix. Enfin, on leur a pas trouvé cette choix, plutôt, c'est autre chose. On nous parle de l'entrée de Bichabou avec les pros. Oui, à Ajaccio, il avait notamment claqué une transversale vers Hakimi qui était assez impressionnante. Mais il a des. Enfin, c'est ça qui fait un peu rêver tous les recruteurs d'Île-de-France, tous les scouts, c'est que Bichabou, El Shaddai, il a des sacrés pieds pour un gabarit pareil. Donc, voilà. Et c'est pas forcément courant. Et Zagadou avait d'ailleurs un peu déjà cette caractéristique de monstre physique avec des pieds, même si au plus haut niveau, il a un peu plus de mal. Mouquet donc, était le gardien titulaire. Il a pris 4 buts, le malheureux. Bon, c'est dur de lui reprocher quoi que ce soit, parce que les 4 buts, il se fait...
Il se fait lier, c'est difficile... Non, les derniers buts, pas compliqué parce que ils sont tous difficiles à les sortir, mais voilà, je pense que c'est une fin de match aussi frustrante pour un gardien d'en prendre trois comme ça et d'avoir le sentiment d'être un peu abandonné par sa défense, mais il peut pas faire grand chose ouais, sur
non,
les quatre
fait...
buts.
Alors, il
difficile.
A... Non, limite, celui qui peut sortir le plus, c'est
le premier
parce qu'il le touche, ouais. Et c'est vrai qu'il freine la balle, mais il est un peu... Bah, il n'a pas la main assez ferme, voilà. C'est ce qu'on dit sur la
balle.
Ouais, disons que le premier but, s'il le sort, c'est un vrai exploit, parce qu'il arrive quand même... Yildiz arrive à lancer tout ça. Mais bon, c'est pas simple. Moi, je trouve que c'est... On sent vraiment un gardien en progression. Plus sûr de lui, qui va faire des arrêts un peu plus impressionnants, qui est un peu moins en panique au pied... Qui a l'air de mûrir en fait tout simplement. Donc après il faudra voir est-ce que ça sera suffisant pour passer des tours et peut-être qu'effectivement hier ce qu'on attend de lui c'est qu'il nous sauve un peu un des trois derniers buts par un exploit. Mais en tout cas bon, ça reste quand même plutôt bien pour sa première en saison en Youth League quand même. Alors, ensuite, on passe à la ligne de 3. Tu veux commenter quel joueur en premier? Tu veux commencer? Donc, comme d'habitude, c'est Lamy, axe droit, Elanash, centre, et Fernandez Vélis, qui était axe gauche. Lequel t'as le plus, le moins plus le...
Bah, on peut peut-être commencer par Fernandez Vélis, qui fait un match donc, du coup, de 75 minutes avant de se faire expulser. Je l'ai trouvé plutôt bon. Je sais pas si tu partages cet avis parce que du côté gauche, il avait un client puisque c'était Yildiz qui balayait un petit peu ce côté et l'axe aussi. Mais je l'ai trouvé dans la lignée un peu de ses prestations depuis le début de la Youth League, plutôt sérieux, appliqué. Après je pense qu'il y a un peu trop de nervosité sur la fin de match et puis c'est des erreurs de jeunesse les deux cartons jaunes mais j'ai trouvé que c'était quand même une campagne encourageante puisqu'on peut parler maintenant de campagne de poule phase de poule en tout cas encourageante puisqu'elle est terminée voilà.
Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est encourageant mais c'est vrai que je quelque part j'attendais un peu mieux de lui là sur live. Une personne me dit je le trouve plus prometteur que Bichabou, sachant qu'il a quand même 2 ans de plus, faut le prendre en compte. Et le carton rouge, pour moi, il y est. Hein. Je sais que j'ai eu un débat sur le forum de culture, je crois, où il me dit ouais, il est dur. Bah, c'est assez dur de ne pas lui mettre les deux jaunes. Le premier, il est quand même main volontaire juste devant la défense, juste devant la surface. Et le deuxième, il coupe un contre qui partait bien. Donc c'est compliqué pour l'arbitre de ne pas le mettre. Après, peut-être que les Turinois auraient pu être plus avertis, ça c'est vrai, parce que l'arbitre a quand même beaucoup laissé jouer. Alors qu'il y a eu des fois où on a eu des sacrés tampons. Ouais, je sais pas, j'avoue que l'expulsion, je trouve, fait ternir quand même pas mal le bilan parce que c'est un des plus expérimentés de l'équipe et pour moi, c'est justement des erreurs qu'il ne doit pas faire. Quoi. Donc, enfin, ce qui est surtout dommage pour lui, c'est qu'il va rater le match suivant déjà parce qu'il devait être suspendu. Donc, est-ce que sa campagne de Youth League n'est pas déjà terminée? À suivre. J'espère qu'il va quand même passer un cap sur la deuxième partie de saison avec l'équipe U19 en championnat, donc, ou en Gambardella. Quoique Gambardella, il doit être trop vieux maintenant parce que c'est U18. Mais je suis un peu plus réservé avec toi. Disons qu'en fait, j'en attendais plus, mais je ne suis pas sûr que le faire jouer axe gauche l'aide tant que ça, même si c'est le seul poste vraiment disponible à cet instant. Quoi. Voilà. Sur le live, on parle de Lamy, toujours au top. Bah, moi, je suis bien d'accord. La campagne de. C'est vrai qu'on me le dit très justement, Bichabou faisait aussi des erreurs en Youth League quand il redescendait. Ouais, non, c'est vrai. Il a fait pas mal d'erreurs en Youth League, Bichabou. Mais malgré tout, Bichabou, aujourd'hui, il est avec les pros, pas Fernandez Vélez. Et je pense qu'on voit pourquoi aussi sur ce genre de rencontre. Bichabou a quand même un inconvénient par rapport aux autres, c'est qu'il passe son temps entre les pros et l'U19. Quand il redescend, il a aucun repère. Et c'est pas forcément simple de faire la navette comme ça entre les deux. J'ai vu des joueurs être pas mal perturbés, faire à la fois. Qui avait largement presque le niveau pour jouer en pro, qui, quand il redescendait, était beaucoup plus dans le dur. Il y a une belle unanimité sur le match de Hugo Lamy, une nouvelle fois, le central droit. Tu as bien aimé, toi aussi, Lucas?
Je le trouve vraiment bon, notamment parce que c'est un poste qu'il expérimente depuis le début de saison, et je trouve que cette étiquette un peu d'axial droit d'une défense à 3 lui va mieux qu'un poste de latéral droit dans une défense à 4. Qu'il a d'ailleurs retrouvé en toute fin de match, et ça s'est pas super bien passé. Mais voilà, je le trouve bien dans cette défense à 3. Il est super important à la relance. Il est vraiment propre avec les pieds. C'est un truc que j'aime bien, ça, c'est sa capacité à relancer pied droit, pied gauche. Je trouve ça assez propre, et c'est peut-être le plus positif sur l'ensemble de la campagne des trois. Parce que c'est un peu la surprise aux côtés de Lanache et Fernandez, qui sont des centraux avérés. Lui était un peu le joker dans cette défense à trois, et finalement, il se retrouve à complètement remplir le rôle.
Ouais. Je suis d'accord avec toi, il y a un petit bémol sur le premier but, c'est lui qui sert mal, ils le disent quand même. Il couvre forcément. Alors peut-être qu'Elanache n'est pas bon dans sa lecture et dans son orientation du corps parce qu'il peut peut-être intercepter, mais il n'arrive pas à revenir assez vite. En revanche, on me dit sur live, ouais, il dans sa manière de défendre est très classe. Tu parles de sa relance, c'est incroyable la relance. C'est que tu as l'impression qu'à chaque fois, il va perdre la balle. Et en fait, tout est calculé, tout est mesuré. Et en fait, ça lui permet de. Il est toujours. T'as l'impression qu'il est à la limite, alors qu'en fait, je pense qu'il est totalement en contrôle. Et techniquement, ce qu'il fait, ou dans l'interprétation de son poste, quand on a le ballon. Je vais en faire peut-être hurler certains, mais quand je vois ce qu'on a fait avec l'équipe pro, de tout ce que j'ai vu en défense à 3 cette saison avec le PSG, c'est limite lui qui interprète le mieux ce qu'on demande à un des centraux de côté d'une défense à 3 de faire. Apporter le surnombre, et ne pas hésiter à casser une ligne, balle au pied d'entrée. C'est franchement très 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 intéressant et impressionnant pour un joueur qui n'avait jamais joué à ce poste-là jusque-là. Quoi. Donc je suis d'accord avec toi, c'est plus vraiment un latéral de défense à 4. Il est vraiment bien dans ce rôle, il faudra qu'il s'étoffe un peu physiquement. On nous dit il me fait penser à Di Marco de l'Inter mais en droitier. Je connais pas beaucoup Di Marco, j'avoue, j'ai peu vu jouer donc je vais éviter d'en parler. Mais vraiment une très très bonne surprise, et ce qui me fait plus peur pour lui, c'est je suis pas sûr que le PSG lui fasse de la place au niveau de l'équipe pro. Et s'il doit se retrouver à partir, il va vraiment falloir qu'il signe dans un club où il joue à 3 derrière, parce qu'à 4, ça sera peut-être un peu plus compliqué malgré tout. Quoi. Mais vraiment, pour moi, la très très bonne surprise de cette campagne de Youth League. Tout poste confondu, honnêtement. S'il y en a bien que j'attendais pas aussi bon, c'est lui, vraiment. Tu veux rajouter un petit mot sur Alanache ou pas grand-chose? J'ai bien aimé une partie de son match, mais pas non plus... Je trouve qu'en capitaine, en fait, il a... C'est marrant, c'est qu'il joue au même poste que Marquinhos chez les pros, donc central, défense à 3 comme ça. Et je trouve qu'il en a un peu les mêmes défauts, qu'il a parfois un peu de mal à s'imposer, qu'il est bon mais pas très bon. Il y a des fois, il va faire deux ou trois interventions. Il y en a notamment devant la défense, là, en première mi-temps, où il est excellent. Et puis après, il a du mal à continuer, à surfer un peu sur cette vague de libéraux qui doit dominer son sujet et tout.
C'est ça, je trouve que les copies sont assez irrégulières. Si tu reprends tous les matchs, il y a souvent du très bon et du beaucoup moins bon, en fait, parce que... Dans un match, il est très irrégulier, je trouve, mais il y a sans doute des trous d'air qui sont dus à des matchs de jeunes, en fait, aussi. Mais,
oui, tout à fait. Oui.
Mais oui, à ce niveau-là, ça pardonne pas, en fait, les trous d'air comme ça. D'ailleurs, le trou d'air qu'on a, nous, sur la fin de match est assez similaire, bien qu'il est encore plus rapproché à celui de la Juve à l'aller chez nous, où ils prennent 3 buts en 10 minutes. Sur la première mi-temps et on termine à 5-1.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Au retour des vestiaires, donc ouais, c'est, les équipes de jeunes peuvent avoir des trous comme ça qui pardonnent pas et faut absolument les éviter parce que ça fait basculer un match.
Ouais, après ça fait aussi partie de l'apprentissage, donc pour ça faut pas non plus trop s'inquiéter, mais bon, c'était un peu dommage, mais lui aussi il est quand même en train de progresser tout ça. Lanache, il fait partie du groupe élite ou pas, je me souviens plus.
Non,
et Fernandez Vélez non plus d'ailleurs.
Non.
Ils font partie de ceux qui sont venus, je crois, pendant la trêve ou dernièrement. Les deux viennent régulièrement avec les pros quand même, donc c'est bien. On nous dit Elanache et Fernandez Vélez, c'est leur dernière saison Youth League. Oui, puisque les deux, ce sont des 2004, si je ne me trompe pas.
C'est un 2004. Le trio ne sera pas là l'année prochaine.
Lamy aussi est un 2004, ouais. Bah, c'est bien pour qu'ils se montrent. Parce que justement, après, ils vont être dans le fameux cas du PSG où tu n'as plus des qui seront trop vieux pour jouer en U19, puisque c'est déjà des U19. Et il n'y a plus d'équipe ensuite. Donc pour eux, c'est une saison importante et il faut qu'ils s'affirment. Tu veux dire un petit mot sur les deux latéraux ou pas peut-être. J'ai trouvé.
Tu peux plus partir sur le milieu. Enfin, si tu veux mettre un petit mot sur les latéraux, mais qui n'ont pas été non plus hyper, hyper en vue. Peut-être qu'on a retrouvé Vimeuge un petit peu sur le côté gauche.
Qui
a été décisif, qui a apporté le. Enfin, offensivement, on l'a un peu retrouvé parce qu'il était passé un peu à côté face à Haïfa alors qu'il y avait un boulevard devant lui sur son côté et il n'avait pas super bien exploité les coups. Cette fois-ci, il était un peu plus dedans, à l'image du but où Garbi le décale, puis il décale à son tour Idiés Soussni. Enfin, voilà, c'est ce genre d'action qu'on attend un peu de lui. Mais voilà, je trouve que les deux ont livré un match plutôt correct. Bien que défensivement, ils ont eu un peu plus de mal, mais je pense que de toute façon, c'est dans la vocation des deux joueurs. Enfin, les deux joueurs sont beaucoup plus offensifs que défensifs. Ouais. Et ça se ressent quand t'as des clients un peu. Bah, je trouve que Yildiz a vraiment fait un très bon match côté Juve et des joueurs comme ça, un peu matures et déjà faits pour le monde de la Youth League, tu ressens direct les complexités d'affronter des adversaires matures comme ça.
Ouais, c'est vrai que ça se sent. Et je trouve que, comme tu dis, il y a un certain rebond sur Vimoge aussi, sur le match d'hier. Mais il avait été bon à l'aller aussi, hein. Il avait fait une passe D de mémoire.
Ouais.
Bon.
Aussi, là, aussi.
Ouais, voilà, mais c'est vrai que le centre pour Ousni, il est quand même très très bien vu, alors qu'il arrive lancé après une course de 50 ou 60 mètres, donc c'est bien d'avoir cette lucidité. Sur l'autre aile, Zague, j'avoue que j'ai pas grand chose à dire. Si, je trouve que c'est plus simple pour lui de jouer avec Mukelenge comme il est droit que comme Lemina. Lemina est un joueur très très vertical. En fait, le latéral a même pas le temps de monter que Lemina est déjà parti vers le but. Avec un joueur qui fixe un peu plus comme Mukelenge, c'est quand même un petit peu plus simple pour lui, quoi. Et pour le coup, je trouve que lui, donc c'est un joueur très jeune, Yoram Zague, c'est le 2006. Et on sent un peu une progression sur la campagne de Youth League. On voit qu'il commence à avoir le rythme un peu plus. Pareil, techniquement, il a passé un cap. Donc c'est bien. Ensuite, on va dire un petit mot quand même de l'axe, parce que ça a été la grosse satisfaction, je pense, du match. C'est la rencontre de Kari, surtout. Mais si tu veux en parler, on a retrouvé le Ayman Kari monstrueux de la saison passée. Là, enfin, on peut le dire.
Ouais, surtout physiquement. On a retrouvé un joueur qui était en pleine possession de ses jambes, là, qui pouvait cavaler 90 minutes et faire des misères au milieu de la Juve. C'est un joueur qui est capable de changer le cours d'une rencontre complètement. C'est pas pour rien que c'est un joueur du groupe élite, on le ressent avec Garbi, que ça sort un peu du lot ce genre de profil. Et surtout là, il nous a livré un très 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 gros match. Il a totalement changé le match. Enfin, c'est un joueur qui a impacté complètement la physionomie de la rencontre. Et face au milieu, il était vraiment. Ouais, il a été vraiment très très bon, puisque enfin, sa vivacité à pouvoir se retourner, se mettre dans le sens du jeu par rapport à Ethan Mbappé qui est encore un petit peu en dedans face à. Enfin, sur cette capacité à se mettre dans le sens du jeu, lui, il l'a complètement. Et dans les projections, il a fait un bien fou au PSG. Il a cassé des lignes à de nombreuses reprises. On l'a vu parfois faire des courses de 50-60 mètres et amener le ballon proche de la surface.
Le nombre de mètres qu'il a gagné, c'est impressionnant. Le nombre de
Ouais, je pense
duels et le
que
nombre de mètres, c'est impressionnant.
ouais, ça doit être assez exceptionnel. On n'a pas les stats détaillés de la compétition parce que c'est pas aussi numérisé que. La Ligue des Champions, mais ouais, ça doit être assez exceptionnel.
Ouais. Et globalement, on en avait parlé il y a quelques semaines sur un des podcasts. On disait, ouais, est-ce que c'est un problème de retour au niveau physique? Ou est-ce que c'est aussi une décompression liée au contrat qu'il a signé et tout? Là, on peut dire que c'était un problème de remise en route physique après une grave blessure. Comme on dit sur là, il prenait le ballon dans son camp, il remontait tout le terrain. Non, mais combien de fois il l'a fait cette action, quoi? Je trouve que surtout on a retrouvé sa capacité à. Où tu crois qu'il est en difficulté, il commence à baisser la tête et ensuite il pousse le ballon, il pousse, il pousse, il pousse, et il dégage une puissance incroyable à ce moment-là. Et hop, la tête se relève peu à peu. Et là, il est lancé, il est inarrêtable, quoi. Et il a une capacité comme ça, quelque part, à s'enfoncer entre ses épaules pour repartir de l'avant, qui est assez impressionnante. Et physiquement, tu vois, tu le vois, il paye pas de mine. Mais quand il commence à se lancer, il est franchement, franchement incroyable. Et il a retrouvé un peu de sa protection de balle. Il a fait moins d'erreurs. Tout ça, vraiment, ça fait très, très plaisir de le revoir à ce niveau-là. Et ce joueur, tu l'associes à comment il s'appelle, à Zaïre Emery. Si Zaïre Emery vient refaire un petit tour en U19,
Je
attention.
pense que t'as une paire exceptionnelle. Hein.
Ouais, t'as une. Non, mais là, t'as une paire qui normalement peut limite peut déjà jouer en pro, quoi. Ils ont rien à faire en Youth League. Mais après, c'est aussi formateur pour lui d'aller jouer en Youth League, de jouer comme ça les meilleurs de sa catégorie. C'est bien aussi, quoi. On l'envoie pas jouer, je sais pas, il y a un club de banlieue d'Evreux un dimanche après-midi à 15h où il va gagner 9-0, quoi. Donc.
Bah, si au moins un des deux peut continuer à jouer,
Oui, non.
ça peut être pas mal.
Et on voit que lui, l'enchaînement des matchs lui a fait du bien. Il lui a fait beaucoup de bien, même. Voilà. Petit mot sur Ethan Mbappé qui, quand même, s'installe au milieu de terrain. Il y a deuxième titularisation
Match.
consécutive. Ouais, bon match, ouais.
Bon match. Je l'ai
Il.
trouvé mieux que face à Haïfa. Voilà, il est sur la bonne pente.
Ouais.
C'était un premier match face à Haïfa, là c'est un deuxième, et puis face
Mais
à un
ça clignote.
adversaire quand même beaucoup plus costaud, bah, il a répondu présent. Il y a quand même des gestes qui témoignent bah, de confiance et de personnalité pour un milieu, puisque j'ai en tête un moment où il est dans la surface, il prend son temps pour relancer, se retourne dans le sens du jeu, puis permet de gagner à peu près 40 mètres sur une passe. Enfin voilà, c'est une bonne prestation dans l'ensemble, je trouve.
Ouais, c'est marrant, c'est que ce qu'on me dit, les gens qui découvrent Ethan Mbappé s'attendent peut-être à voir un clone de Kylian, mais c'est tellement l'opposé. Il est gaucher. On voit que physiquement, il n'est pas du tout formé. Il n'est pas spécialement puissant. Il n'est pas spécialement tanké. Il a un bon pied gauche, ouais. Déjà, rien que ça, c'est bon. Enfin, Kylian a un pied gauche, il a marqué avec, mais bon, c'est pas sa spécialité, quoi. Je trouve pas spécialement rapide, il manque un peu de coffre. C'est vrai qu'on me dit un Rabiot dans le style. Il y a des moments où il ressemble plus à
C'est
Rabiot
vrai.
qu'à Kylian Mbappé, honnêtement. Un mec assez
Non, puis c'est vrai,
longiligne.
il a une manière de courir qui me rappelle un peu Rabiot.
Ouais.
Il est pas spécialement élégant à l'écran, mais
Non.
c'est un joueur qui est peu efficace en vrai.
Ouais, non, c'est vraiment. C'est un joueur très, très. Enfin, c'est très sympa de voir que c'est pas parce qu'il s'appelle Mbappé que c'est le clone de son frère. Et vraiment, c'est même l'opposé dans le rendu visuel, quoi. Il est vraiment intéressant, j'aime bien ce qu'il fait. Il est intelligent sur le terrain, on voit, il est pas bête, hein, il comprend bien ce qui se passe. Mais je trouve que morphologiquement, physiquement, même dans sa façon de courir, on voit qu'il est pas fini, en fait, comme joueur. Et c'est normal, attention, on parle d'un joueur de 15 ans, bon, faut vraiment raison garder, mais c'est sympa de suivre cette évolution match après match. On voit qu'il commence à prendre un peu plus confiance, on voit qu'il fait plus les erreurs sur des contrôles, notamment qu'il a des ballons perdus parce que il sent mieux que le joueur arrive déjà. On voit qu'il commence à s'habituer à la vitesse du jeu en Just League. C'est pas rien, la Just League.
En tout cas, c'est un vrai joueur. Ça s'était moqué de lui un peu, mais il est bon. Honnêtement, c'est hyper dur de porter le nom de Mbappé quand tu viens par exemple au camp des loges et que tu te retrouves direct propulsé avec l'étiquette de Starlet alors que t'as même pas encore joué un match en Youth League complet. Et non, faut avoir les épaules pour jouer comme ça à 15 ans en Youth League, et il répond plutôt présent.
Ouais, non, c'est sûr. Après, c'est sûr que bon, on lui demande beaucoup et c'est super dur parce que il portera toujours le nom d'une superstar, tu vois, faut quand même le dire. Mais c'est bien qu'il fasse son trou, et quelque part, c'est surtout très très bien qu'il ne joue pas au poste de son frère, parce que sinon les comparaisons ça aurait été insupportables. Moi, je vois le fils de Zidane, le grand Enzo, là, qui est pas très très bon, on va pas faire semblant, qui jouait en plus milieu offensif. C'était terrible, les comparaisons. Là, les deux, ils n'ont pas grand-chose en commun. C'est très bien pour lui, quoi. On nous dit il défend déjà plus que son frère. Heureusement, vu son poste. Et merci à Ibéric pour le sub, ça c'est toujours plaisir. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose sur le match d'Ethan ?
Non, pas particulièrement.
Bon. On va passer au joueur de l'attaque. Alors, j'ai pas de photo de notre ami Mukelenge, donc si tu veux en parler... Eh bien, écoute, tu vas devoir broder sans photo, je te le dis tout de suite.
Globalement, je trouve que dans la lignée de ce qu'il a proposé à Haïfa, c'est un joueur, comme tu l'as dit, qui colle mieux avec une association avec Zague. Parce que c'est un joueur qui colle plus la ligne, qui a le profil d'ailier, un peu moins puncher que Lemina, mais qui a moins cet attrait de l'axe. Et qui du coup permet plus souvent de voir des séquences où tu peux dédoubler avec Zague et prendre enfin occuper les largeurs du terrain, puisque c'est important quand même quand tu joues dans ce schéma à 3. Donc voilà, non, c'est un profil plutôt intéressant, je trouve, qu'on n'attendait peut-être pas directement à ce niveau et propulser en attaque titulaire, mais qui profite bien de la blessure de Lemina pour se montrer.
Ouais, un peu comme Mbappé, tu vois, au milieu, je trouve. Il est là, il s'est retrouvé un peu là par en conséquence de blessures de joueurs devant lui. Hein, et il s'est bien glissé dans l'équipe, il fait le taf. Alors, il y a des fois des trucs où il doit faire mieux et tout, mais c'est un 2005, Mukelenge, si je me trompe pas, voire 2000. C'est ça ?
Ouais, c'est ça. Et tu vois, moi, par rapport à la saison dernière des U17 et des U19, je m'attendais plus à ce que ça soit Etondé qui soit un remplaçant numérique de Lemina. Mais finalement, Tondé a pris une grosse blessure cet été, et c'est plutôt Mukelenge qui tire son épingle du jeu.
Ouais, je regardais, il a quand même joué 45% des minutes en Youth League, hein, Mukelenge, au final. Hein. Il joue, hein, il a du temps de jeu, faut pas croire. On nous dit « je veux Ousni au Mondial ». Non mais attendez, calmez-vous, j'en rigolais hier après-midi parce qu'il a fait quand même un gros match. Mais d'abord, on va parler de Garbi, qui est donc le ailier gauche, slash milieu offensif, enfin... Il a un peu un rôle très très libre sur le terrain. Il a quand même fait une très grosse rencontre, lui aussi. Il met un doublé. Alors, il frôle le triplé et son mauvais choix se termine en but pour la Juve, le but qui relance tout. Mais globalement, il fait une super rencontre. C'est bien. Il confirme que sa campagne, c'est pas du hasard, quoi, en tout cas.
Ouais, non, je trouve que c'est vraiment... un très très bon joueur. Après, il a quelques petits défauts à corriger. Quand Zoumana Camara dit que... il peut être parfois brillant et très très juste, et parfois un peu brouillon. C'est vrai que non, il est dans le vrai, mais je pense que la nature du joueur aussi rend ce constat un peu plus présent, puisque c'est un joueur qui aime le duel, qui aime la percussion, qui va naturellement perdre des ballons parce qu'il prend beaucoup de risques sur le terrain. Mais non, franchement. Quand tu vois la rencontre où il n'est pas là et les rencontres où il revient dans le groupe U19, tu sens une grosse, grosse différence. Hein.
Ouais, non, t'es sur un joueur majeur. Tu vois, c'est comme si on faisait redescendre Zaïre Emery ou Bijabou, tu te rends vite compte que quelque part, il est... après, c'est aussi le propre de la Youth League. Il est un peu trop fort pour la Youth League et il n'est peut-être pas encore assez fort pour jouer en Ligue 1 ou parce qu'il a... Tu vois, il a des pertes de balles, tu les fais en Ligue 1, ça se finit mal, on va dire. Ça peut très mal
c'est
se
sûr.
Finir. Voilà. Mais justement, il faut qu'il continue à être aussi performant en Youth League, qu'il gomme un peu ses défauts à ce niveau-là. Et ensuite, il ira au-dessus et il aura tout pour faire. Il sera déjà prêt, il sera plus mûr pour faire de bonnes choses. Quoi. Et on nous dit, ouais, à propos de Garbi, sur là, c'est très juste. On sent l'importance qu'il a pour ses coéquipiers. Il le recherche constamment pour ressortir les ballons. Globalement, il est un peu la courroie de transmission de l'équipe. Quand on est en difficulté, on va aller chercher Carey dans l'axe ou Garbi un cran plus haut. Ou alors, si on est vraiment, vraiment en grosse difficulté, on va chercher Ousni de la tête encore plus haut. Ousni qui n'est pas pro, on me demande sur la live. Non, c'est en négociation. On en a parlé sur le site il n'y a pas longtemps, mais ça ne va pas être simple puisqu'il y a quand même énormément de concurrence. Sur Garbi, tu veux rajouter quelque chose, Lucas ?
Ouais, je voulais juste dire que pour favoriser son intégration à l'équipe première, je pense qu'il a... Il a un peu intérêt à jouer sans fleuriture dans son jeu, puisque c'est un joueur qui perd beaucoup de ballons et qui aime le risque. Son jeu le veut, en fait, mais s'il veut se faire une place et profiter de la rotation, je pense qu'il doit se faire un peu plus discret dans l'équipe première et jouer un football simple. En gros, je pense qu'il a tout intérêt à simplifier son jeu. Et à le rendre encore un peu moins folklore. Je sais pas si tu partages
ça. Je suis d'accord. Enfin, il faut qu'il entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est un peu réduire le possible déchet parce que des fois il fait des choix pas toujours comment dirais-je évidents ou pas toujours pertinents quoi, tout simplement. Mais c'est normal. On parle d'un joueur de 18 ans donc et encore il est de quel mois? Il est juin 2004 Garbi donc il vient juste d'avoir 18 ans. Avril 2004, voilà, il a eu 18 ans il y a 6 mois. C'est normal, ça va venir. Et puis c'est un joueur offensif, c'est toujours plus long à faire le bon choix, bien réfléchir. Mais je trouve que tu vois, le fait qu'il arrive à marquer pratiquement à tous les matchs, c'est quand même un excellent indicateur. Ça veut dire que il est capable d'être dans la surface, il est capable de finir, et c'est pas donné à tous les milieux offensifs hein, de savoir finir des actions. Il y en a certains, ils mettent 3 buts par saison, hein. C'est terrible, mais c'est le cas. Hein. Et ça. Globalement, c'est aussi un signe de maturité, c'est un signe que bah, ça va mieux pour lui, qu'il va continuer à franchir des paliers. En parlant de marquer, on va finir par la terreur du but adverse. Donc, Ousni, qui a une nouvelle fois et inscrit un doublé. Attendez, je crois que j'ai même pas une photo aussi. Voilà, ça c'était au match aller, donc ça fera l'affaire. Cette fois-ci, il en met deux de buts. Il met le deuxième sur un exploit individuel et le troisième sur un but d'avant-centre qu'il sait parfaitement mettre second poteau, tac, 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 il est là, il conclut de près. Bon, globalement, on nous dit le crack. C'est un peu la révélation de cette campagne de Youth League. On nous dit Ousni au Qatar, peu importe avec quelle sélection. Ah là là. Ça va être compliqué. Je sais pas, je pense que oui, forcément, le Maroc doit faire un forcing assez impressionnant pour le récupérer, mais ça, c'est le jeu. Merci à Emolowok. Oh là là, j'arrive pas à le prononcer, ça dit donc pour le sub aussi. Ah tiens, on nous dit j'aime beaucoup le joueur. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert Ilyes Ousni sur cette campagne de Youth League. Oh, c'est un joueur un peu annoncé, puisque. Il avait quand même déjà brillé à l'Alcas Cup au Qatar avec le U17, il y a un an et demi maintenant. Mais bon, il confirme quand même, Lucas.
Oui, non, clairement. D'ailleurs, en parlant d'Alcas Cup, les révélations à l'époque, c'était Garbi, Ousni et Zaïre Emery. Et bon, les trois joueurs sortent du lot, donc c'est plutôt marrant de suivre leur progression. Mais là, pour sa première année chez les 19, parce que c'est un joueur qui découvre un peu ce noyau, malgré... Il avait connu quelques matchs l'année dernière avec le groupe de Zoumana Camara. C'est un début de saison en grande pompe. Il est très très fort en attaque. 8 buts en 6 matchs, 3 doublés. Enfin, sur une campagne de Youth League, c'est quand même sacrément costaud. Hein.
Ouais, et dans un groupe compliqué.
Ouais, c'est ça.
On nous dit, est-ce qu'il fait ses entraînements avec les pros? De temps en temps, il en a fait. Il était monté, je crois, au lendemain du match contre Brest. Pas Brest, non, 3, si je ne me trompe pas.
Mmh. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est,
il l'a fait, il a fait aussi face à Brest.
Et aussi, ouais, voilà. Et on dit, profil rare, il est ni très rapide ni très grand, mais un QI foot de 250. Ouais, c'est vrai que physiquement, il n'a rien de fou, mais ne sous-estimez pas à quel point il a de l'activité. Parce que c'est
un profil hyper singulier dans sa participation au jeu.
Ouais, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que pour un défenseur adverse, de cet âge-là surtout, c'est pas évident de gérer un joueur qui bouge autant. Ils n'ont pas forcément beaucoup l'habitude. Donc, c'est pas simple. Faut pas croire que le fait qu'il soit ni spécialement grand, ni spécialement ci ou ça, c'est pas forcément évident. On me dit, il fait plus ça à Gouiri. Il est un peu plus longiligne que Gouiri quand même. Et oui, il est en équipe de France U17,
Ouais.
U18. Ouais.
U18.
Bah, il a joué
U18,
U17,
hein.
U17 avant et puis
Ouais.
maintenant il joue U18.
Valdeur U18.
Excusez-moi, j'étais en train de tousser. On nous dit Walid Regragui va aller chercher Ousni. C'est possible. Et évidemment que toutes les. Enfin, je pense qu'un pays comme le Maroc, s'ils peuvent récupérer un talent pareil, ils vont pas se gêner. Enfin, y a pas de. Quand je vois que même l'Espagne en est à prendre Garbi alors qu'ils ont je sais pas combien de joueurs. Évidemment que toutes les sélections, si elles peuvent gratter un bon joueur, elles vont pas se gêner. Hein. Il n'y a pas de pitié à ce niveau-là. Hein. Tout ce qui est bon, ils prennent. Hein. Faut le dire, c'est tout. C'est comme ça. On lui dit hargneux, généreux, ultra mobile, j'adore. Non, mais c'est à quoi sa mobilité? Il arrive à combiner une mobilité incroyable parce que regardez-le, même à l'arrêt, il court énormément et il arrive encore à être précis. Alors c'est vrai que des fois, il court tellement qu'il manque un poil de justesse au moment de conclure, mais c'est dur de dire ça d'un gamin qui a mis quoi 8 buts, c'est ça, Lucas, si je me trompe pas, 8 buts en 6 matchs.
C'est ça.
Bon.
Les meilleurs buteurs de la Youth League, il y a trois joueurs qui ont mis 7 et lui en a mis 8.
Ah, il y a quand même 3 mecs qui ont mis 7 buts, c'est pas mal.
Ouais, chez les Espagnols, c'est un buteur du Barça, Barbera, et Nino, qui est un jeune ailier de l'Atlético de Madrid. Les deux clubs
D'accord.
se sont qualifiés d'ailleurs, mais à défaut de se qualifier en Ligue des Champions.
C'est bien Lucas. Je te rappelle que dire des propos anti-espagnols te fait progresser dans la hiérarchie culture PSG. C'est une blague pour les débiles, hein, je précise. On nous dit qu'il a des origines espagnoles, Garbi. Oui, je crois côté maternel, c'est ça, non?
Oui, c'est ça.
Voilà pourquoi. Il a trois choix, Garbi. Il a la France, l'Espagne et la Tunisie, si je ne me trompe pas. C'est ça? Ouais, c'est ça, Garbi, c'est Tunisie. Parce que je sais que j'avais dû faire des recherches, j'ai été pris dans un conflit tuniso-marocain à propos de ce bon Ismaël. Il est tunisien, voilà. Enfin, d'origine en tout cas. Parce que je crois qu'il a joué pour la France aussi. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop quelle nationalité sportive il va choisir à la fin. Tu veux rajouter un dernier truc sur Hosni? C'est un 2005 Hosni, c'est-à-dire que là, c'est sa première année U19. Donc lui, par exemple, il peut encore jouer la Gambardella, c'est ce qu'on appelle un U18. Et ensuite, bah, il pourra encore faire la campagne de Youth League de l'an prochain, même si, sachant qu'il est en fin de contrat à l'issue de la saison, et que donc le PSG essaye forcément de le faire signer pro, faudra voir s'il restera, qu'est-ce qui va lui être proposé, tout ça, c'est aussi un des enjeux. Et quand on fait une campagne de Youth League pareil, forcément, on a des propositions, on va pas faire semblant. Donc, faudra voir la suite. Mais tout ça, c'est des histoires contractuelles qui se jouent parfois très très loin des terrains. Donc, on va se contenter d'apprécier le fait qu'il brille en Youth League. On nous dit la Gambardella pour info.
Ouais,
Ouais.
c'est ça. En fait, vu que tu avais parlé de Gambardella, peut-être qu'on peut faire un point sur les joueurs
Oui, très
qui vont
bonne idée.
disputer la compétition et qui vont pas la disputer.
Juste pour
Notamment,
préciser,
on va
ouais.
perdre toute la défense.
Attends, juste pour préciser un truc, la Gambardella avant, c'était U19. Donc anciennement, moins de 18 ans nationaux, c'est passé depuis 3 ans U18. Donc techniquement, ça serait moins de 18 ans, moins de 17 ans nationaux de l'époque, mais c'est un peu compliqué parce qu'à l'époque c'était moins de 16. Bref, en gros, c'est les joueurs nés après le 1er janvier 2005. Donc comme tu dis, il y a beaucoup de monde qui saute de l'équipe de Youth League, quoi.
Pour résumer, on va perdre Mouquet qui va être remplacé sans doute par Nkunku qui est son. C'est pas Christopher Nkunku, hein, c'est
C'est un autre.
Nkunku. Destiny Nkunku qui est du coup le deuxième gardien dans la hiérarchie qui va disputer la compétition. En défense, on va perdre le trinôme derrière parce que les trois sont des 2004, donc ça devrait plutôt être des joueurs comme Shadid Delest. Qui vont jouer. Ayman Kari qui ne va pas jouer la compétition puisque c'est en 2004 et Garbi qui ne la jouera pas non plus puisque c'est aussi en 2004. Sinon, le reste du noyau c'est 2005-2006 donc ils sont tous éligibles à la Gambardella.
Voilà. Bon, ça sera quand même une équipe pas trop mal. On nous dit la Gambardella pour ce qu'on fait quand on la joue. Non, faut pas croire, on a fait des bons parcours en Gambardella. Alors on est maudit, hein, je veux pas faire semblant, on perd toujours en demi au péno, enfin des circonstances improbables, mais on fait quand même des bons parcours. C'est vrai qu'en Gambardella, par exemple, on pourrait faire jouer Bichabou ou Zaïre-Emery encore pour vous donner une idée. Donc
Ouais.
voilà. Saison Covid, on allait gagner totalement. La saison Covid, on avait une équipe incroyable. On allait gagner à Lyon dans une, avec une rencontre restée mythique de la part de Caïs Ruiz, époque encore PSG. Donc voilà. Mais bon, c'était une autre époque. On a. Est-ce que c'est Papus qui coach l'équipe de Gambardella là? Oui, totalement. Ça fait partie de ses attributions techniques. Il coach U19 nationaux, Youth League, Gambardella. Qu'est-ce que devient Caïs Ruiz? Bah écoutez, il est à Auxerre, le petit Caïs. Mais je sais pas du tout s'il joue cette saison. T'as peut-être suivi, toi, Lucas? Moi, pas du tout.
Bah, il joue pas beaucoup. Moi, je l'ai vu. Il a joué titulaire face à Lyon. Mais c'est son seul match. Et voilà, il n'avait pas été non plus très en vue, puisqu'il a fait une petite heure de jeu et puis il est sorti. Reste, il est même pas entré en jeu, donc voilà.
Là, j'ai sous les stats. En fait, il a joué un match contre Lyon le 31 août. Après, il est passé sur le banc de touche. Et là, depuis trois matchs, il n'est même pas sur le banc de touche, il est en dehors de l'équipe. Donc, je ne serais pas surpris qu'il soit parti avec la réserve. Voilà. Si vous avez du temps, vous pouvez aller checker normalement sur le site de la FFF. On a les feuilles de match désormais de CFA, enfin désormais National 2, National 3, U19, U17, c'est vachement pratique. Vous pouvez probablement retrouver ce bon Caïs quelque part sur le site de la Fédé. Moi j'avoue que j'étais parti chercher des trucs sur Elias Ousni, mais j'ai pas eu le temps d'aller chercher sur Caïs Ruiz. Bon, on a fait le tour de la Youth League. Faudra attendre le tirage au sort. Alors c'est pas pour tout de suite, parce que d'abord on doit aller à comment ça s'appelle ? On doit attendre le tour de barrage des deuxièmes de poule face aux champions de la Voie des Champions. Et ensuite on aura le tirage au sort. C'est direct les huitièmes ou c'est les quarts ? Non, c'est les huitièmes qu'on tire.
C'est les huitièmes.
Voilà. Et c'est sur un match. Attention. Et normalement, le PSG recevra, puisque... Non, c'est ça, on reçoit quand on a les premiers
tours. Ouais, c'est ça, le PSG reçoit.
Voilà. Bon, on a fait le tour sur la formation, on en est à 55 minutes, donc on a plus que fait le tour. On va vous souhaiter...
On peut juste peut-être rappeler ceux qu'on peut tirer.
Vas-y.
Les premiers qui sont qualifiés.
Ouais.
Alors, attends, je reprends juste mon petit classement. Alors, dans les qualifiés, actuellement dans la compétition, on a Liverpool, l'Atlético de Madrid, Barcelone, le Sporting Lisbonne, qui est une très très bonne équipe, Milan, le Real Madrid, qui a fait une campagne assez dingue, puisqu'ils ont mis 23 buts en 6 matchs.
Oh là là! Ah oui, quand même!
Et ils ont une attaque de feu. Hein. Manchester City et PSG, voilà. Donc, c'est les équipes qui, pour l'instant, sont qualifiées, qui seront rejoints par les vainqueurs des barrages.
Voilà, bon. Eh bien, écoutez, Lucas vous a fait le point complet sur les qualifiés, tout ça. Moi, j'ai cliqué n'importe où sur Twitch, donc je ne sais plus comment on remet le live, mais je vous aime quand même. Je vous dis à tout à l'heure, parce qu'on a un autre live pour les... Comment ça s'appelle ? Les pros. J'ai eu du mal. Ça sera à 23h. Je peux déjà vous dire qu'il y aura Mathieu et Omar, il m'en manque un quatrième. Donc, on va voir comment on fait. Je vous dis à très bientôt, à plus tard, me dit-on, ben oui, pas de souci, à plus tard. Et puis ben, on espère que ça vous a plu. Je vais tenter de vous mettre le replay en ligne. En fait, j'ai oublié de lancer l'enregistrement, donc je sais pas trop comment on va faire. Le son, ça devrait aller. Je suis pas sûr que. Donc le son, ça sera sur les Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tout ça, ça vous l'aurez sans problème. Au pire, je lancerai, je me débrouille. En revanche, la partie vidéo, je sais pas trop si je vais pouvoir vous la sortir, vous la mettre sur YouTube. Donc si vous cherchez le replay, checkez plutôt les plateformes audio que les plateformes vidéo. Je vous tiendrai au courant sur le Twitter de Culture comme d'habitude. Allez, très bonne fin d'après-midi à tous. On espère que ça vous a plu. Merci aux deux subeurs qui sont passés en cours de route. C'était très gentil de votre part. Et à bientôt. Et oui, on nous dit Gonfreville au camp des loges ce week-end pour le 19. Bah écoutez, ça sera probablement dimanche à 15h, à moins que ce soit passé à 14h, parce qu'on est déjà aux horaires d'hiver. Mais en tout cas, vous allez voir sur le site de la Fédé. En plus, c'est gratuit si vous voulez aller voir les jeunes. Autant U6 c'est payant, souvent, autant les U19 nationaux, c'est gratuit, c'est toujours sympa. Et des fois, c'est sur le terrain d'honneur, vous êtes assis. Allez, gros bisous à tous, à bientôt, ciao ciao tout le monde. Bah Lucas, faut dire bisous là normalement. Allez.
Allez, bisous.
Voilà, salut.